Mes bien-aimés, voici réunis ce soir encore sous le regard du Seigneur. Et nous ne sommes qu'une prière pour que la bénédiction qu'il a en vue vers la fin de cette première partie du camp Mahanaïm 82 puisse s'accomplir en chacun de nous. Voulons prier. Ô Dieu, tu sais ce qui est au fond de nos cœurs, cet immense désir de voir parmi nous se lever des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, qui ont saisi l'immensité de ton amour et qui, subjugués par cet amour, ne peuvent plus avoir un cœur partagé, ne peuvent plus clocher des deux pieds, mais désirent ardemment te suivre, parce que tu es le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu des prophètes et des apôtres, révèle-toi au milieu de nous ce soir par ton esprit. Captive nos pensées. Donne-nous ton intelligence. Donne-nous ta compréhension. Amène-nous à voir les choses comme tu les as vues et comme tu les vois, afin que nous connaissions dans nos vies l'harmonie. Et que tous ensemble, ces vies puissent faire monter jusqu'à toi une merveilleuse symphonie à ta louange et à ta gloire. Merci d'avoir dit, Seigneur Jésus, à ton Père, qu'il avait caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais qu'il les avait révélées aux petits-enfants. Donne-nous d'être des petits-enfants ce soir, afin que nous puissions saisir les vérités les plus profondes que tu voudrais graver, non seulement dans notre mémoire, mais dans nos cœurs, pour que tout notre comportement s'en ressente dès maintenant et à jamais. Amen. Nous continuons en cette soirée du 5 août ce thème « Vivre dans la présence de Dieu » et ce soir nous nous arrêterons plus particulièrement sur les quatre phases du plan éternel de Dieu. Je lirai tout d'abord un texte qui se trouve dans Ésaïe, au chapitre 25, qui est un cantique d'action de grâce. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Est-ce que vous pouvez dire ça? Ô Éternel, tu es mon Dieu. Est-ce que tous peuvent le dire? Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Est-ce que nous pouvons dire qu'il a fait pour nous des choses merveilleuses? Est-ce que nous pouvons répéter cela ensemble? Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Et maintenant, je relis le texte qui nous avait occupé dans notre première soirée, au chapitre 11 des Romains, ce verset 33e, où l'apôtre est bouleversé devant le plan de Dieu, devant sa réalisation. Et il s'écrit, verset 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. » Est-ce que nous pouvons répéter cela ensemble, ce dernier verset? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Oh, que ces paroles se gravent dans nos cœurs et que nous ayons désormais des certitudes. Mes bien-aimés, j'ai cherché hier à vous montrer le dessein éternel de Dieu au sujet de l'homme, sa créature. En lisant avec vous ces quelques versets de Romains 8, versets 28 et suivants, où il est dit que toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous voulez garder aussi ce verset dans vos cœurs? Toutes choses, il n'y en a pas une qui est contre vous. C'est définitif. C'est jugé, quelles que soient nos circonstances. Toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ah, vous savez, il y a des heures cruciales dans la vie d'un homme. Et j'entends encore, au matin d'une grande épreuve qui devait bouleverser ma vie et probablement m'amener au Canada, si je n'avais pas eu cette épreuve, j'entends ce vieux pasteur qui avait 90 ans, qui disait, communiant à ma souffrance dans une grande église, devant un nombreux public, « Ce matin, quand j'ai su l'épreuve qui arrivait à mon frère Gaston, je me suis jeté à genoux et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, donne-moi une parole pour mon frère. » Eh bien, même si ça vous fait l'effet d'une bombe, voilà ce qu'il m'a dit, ce Seigneur. Toutes choses travaillent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand, quelques heures avant ces paroles, vous venez d'être face à la mort de la mère de vos 5 enfants, eh bien, vous vous rappelez ces paroles. Et du reste, Dieu me les avait données 2 mois avant, lorsque je lisais ce chapitre. Un jour, il m'avait dit, « Ne t'occupe pas des choses qui vont arriver, aime-moi. » Alors c'était comme la confirmation, « Aime-moi, ne t'occupe pas du reste, toutes choses, travaille ensemble. » Oh, bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un simple concours, ça fait mal. C'est les douleurs de la femme enceinte, mais cette épreuve va déboucher sur une vie nouvelle. Sur une vie nouvelle. C'est merveilleux, la parole. Avant l'existence du monde, selon les textes que nous avons lus hier, Dieu nous a préconnus. Il nous a connus à l'avant. Et il nous a prédestinés à la gloire. Vous devez mettre cela dans votre cœur. Vous avez eu une place dans la pensée de Dieu avant l'existence du monde. Dieu vous avait dans son cœur. Il vous a très connu. Et puis, il a décidé de vous créer, mais avant de vous créer même, il a dit, je les destine à la gloire. Alors ce soir, je voudrais vous faire saisir les grandes phases du plan originel du Père, en laissant pour un temps de côté le plan de la rédemption de l'homme, qui fut incorporé au plan de Dieu, après que l'homme, créé libre, fit le mauvais choix, et comme nous l'avons vu encore ce matin, à cause de ce mauvais choix, il est tombé sous la puissance de Satan, sous la puissance du péché et sous la puissance de la mort. Bien sûr que Dieu avait établi le plan de la rédemption avant la fondation du monde, c'est une vérité. Et demain soir, si Dieu le permet, dans un autre schéma, je m'efforcerai de vous faire saisir comment Dieu incorpora la rédemption à son plan initial. Mais ce soir, on va en quelque sorte oublier la chute, oublier le péché de l'homme, et on va voir ce que Dieu voulait pour l'homme, dans sa pensée. Nous allons envisager ce que Dieu a envisagé dans les conseils de l'éternité. Et je voudrais que vous soyez bien convaincus que rien ne peut être affecté par le temps, par le péché et par la chute. Quand Dieu a décidé quelque chose, eh bien, son plan s'accomplit et son dessein n'a pas été affecté par le temps, par le péché et même par la chute. De lui, par lui, pour lui, sont toutes choses. Parce que Dieu est Dieu, ce qu'il a décidé s'accomplira. Et c'est ce que nous avons lu dans le prophète Ésaïe, « Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des merveilles, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Alors, observons donc comment le plan de Dieu se déroule. Vous voyez ce tableau que j'ai fait un peu en vitesse aujourd'hui et qui vous montre les quatre phases du plan paternel. Ce plan paternel, c'est les phases de ce plan qui n'ont jamais changé. La chute n'a pas changé le plan paternel de Dieu pour sa créature. Alors, sur ce tableau figurent quatre phases que Dieu nous destine tous à traverser, qui que nous soyons. Et si nous ne saisissons pas le plan que Dieu a en vue, nous ne comprendrons jamais qu'à moitié pourquoi ces étapes sont nécessaires à la réalisation de l'objectif divin. Nous les avons décrites par ces quatre expressions. Être, c'est ce qui s'est passé à la création de l'homme. Au sixième jour, l'homme a été créé au sommet et de toutes les créatures. Il est créé en dernier lieu. Dieu lui a donné l'être. Mais il lui a donné l'être qui pourrait réaliser tout ce qu'il avait prévu pour lui. Cet être devait devenir son enfant. Quand Dieu a créé Adam, on ne peut pas dire qu'Adam était son fils. C'était sa créature. Il avait Dieu comme créateur. Et c'est seulement comme créateur qu'on peut le voir, qu'on peut l'appeler le Père. Il est le Père de toute créature. Mais il n'était pas, Adam n'était pas encore fils. Il pourrait le devenir s'il obéissait à la voix de son créateur. Il deviendrait le fils de ce créateur. Le fils. Et devenant le fils, il deviendrait l'héritier. Il posséderait tout ce que Dieu avait dans son cœur. Toutes les richesses de Dieu, Dieu voulait les lui donner. Comme un enfant devient, par sa naissance, l'héritier de son père. Dieu voulait nous amener à posséder tout ce qu'il avait, et enfin, dans la dernière étape, il allait qualifier son héritier pour qu'il puisse l'associer à son règne. Qualifier pour le trône, de sorte que, en créant Adam, il le prédestinait non pas au tombeau, il le prédestinait au règne. Au règne, non seulement un règne terrestre sur cette terre que Dieu avait faite d'une façon parfaite, mais il le destinait à un règne céleste sur toute chose. Il voulait qu'il s'asseye avec lui sur son trône. Voilà la pensée de Dieu pour l'homme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, pour commencer à la création, il vous faut bien comprendre qu'Adam, créé par Dieu, ne possédait pas la vie divine. Ne vous figurez pas qu'Adam, à la création, possédait la vie divine. Adam était créé au sommet des êtres, sans péché, il était innocent, il était heureux, mais il n'avait aucune parcelle de vie non créée en lui. Il avait l'existence, mais il n'avait pas la vie de Dieu, la nature de Dieu. Il n'y participait pas encore. Il était le sommet des êtres, une créature réellement merveilleuse. Mais il n'était pas encore l'enfant de Dieu. Puisque la vie humaine vient d'Adam, les hommes sont donc tous des créatures qui ne possèdent en elles-mêmes aucune parcelle de vie divine. Ne vous figurez pas que vous posséderiez dès votre naissance une parcelle de vie divine. Adam, créé par Dieu, ne possédait pas lui-même une parcelle de vie divine. Il avait l'existence, il avait le souffle. De sorte que, étant nous-mêmes fils d'Adam, nous n'avons pas la vie divine en nous dès notre naissance. Nous avons l'existence, le souffle que Dieu nous a donné. Mais on peut dire que toutes les créatures de Dieu sont des fils potentiels, c'est-à-dire des fils en puissance, car ils sont créés avec un esprit qui peut être activé par la vie de Dieu. Mais ce n'est qu'en utilisant leur liberté de choix pour adopter le mode et les principes de vie de Dieu qu'ils peuvent recevoir la vie divine et devenir par enfantement les fils et les filles de Dieu. Cela, vous devez bien le comprendre. Adam lui-même a eu la possibilité de devenir enfant de Dieu. Mais que devait-il faire pour devenir enfant de Dieu? Il devait s'approcher de l'arbre de la vie qui représentait déjà le Christ, le Fils éternel, l'arbre de vie, et en s'appropriant ce fruit de l'arbre de vie, il manifestait qu'il voulait réellement vivre de la vie divine. Mais, comme vous le savez, Adam a fait le mauvais choix et il n'a pas reçu cette vie divine. Et aucun des descendants d'Adam n'a à sa naissance la vie divine. Notre père ne l'avait pas. Oubliez la faute, oubliez le péché originel. Retenez simplement qu'Adam, avant la chute, n'avait pas la vie divine. Il avait la possibilité de la recevoir. Le chemin était ouvert. Il a tourné le dos à cette possibilité et il a pris le chemin qui lui était défendu. Parce que Dieu l'avait bien mis en garde en lui disant, si tu prends ce chemin, si tu manges du fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire si tu veux toi-même réaliser ta vie, qu'est-ce qui t'arrivera? Tu mourras, certainement. Tu mourras, certainement. Si tu prends ce chemin-là, tu mourras, certainement. Alors n'accusons pas Dieu. Dieu a créé cet être libre et il fallait que l'homme emploie sa liberté, manifeste qu'il était réellement libre. Dieu ne l'a pas obligé de devenir son enfant. Dans son cœur, c'est ce qu'il voulait, que l'homme devienne réellement son enfant. Mais il ne voulait pas l'obliger à se prosterner devant lui. Il voulait que l'homme vienne de lui-même, puisse réellement l'adorer par un acte de volonté libre. Donc Adam fut conçu pour être tout ce que Dieu pouvait faire de lui par sa main. Dieu a créé cet être et il avait son plan pour lui. Et Adam pouvait, sans qu'il y ait à passer par l'expérience de la chute et des souffrances et de la mort, Adam pouvait être, pouvait devenir ce que Dieu avait prévu pour lui. Ce n'était pas une nécessité que l'homme pêche. Mais au cas où l'homme pêcherait, Dieu avait prévu un plan pour amener quand même l'homme à sa gloire. Mais ce serait par un chemin beaucoup plus long. Alors je reviens à ce que nous soulignions tout à l'heure, la vie divine de Dieu, sa nature, sa puissance. Son trône nécessitait d'autres moyens pour lui être accordé. Mais la porte lui était ouvert. Dieu le crée et lui ouvre cette porte sur le devenir, sur la possession et sur le règne. Adam, s'il suit le chemin que Dieu lui trace, règnera avec le Seigneur. Devenir, partager, régner. Mais Adam, au paradis, avant la chute, donc, devait acquérir ce lien du sang, si j'ose dire ainsi, qui lui aurait permis de devenir fils, selon le plan de Dieu. Adam, sans péché, créature de Dieu, devait devenir un fils. Mais comment est-ce qu'il pouvait devenir un fils? En suivant le chemin que Dieu lui montrait, en restant dans la dépendance de Dieu et en s'appropriant le fruit de cet arbre. Et qu'est-ce que symbolise cet arbre? L'arbre de vie. La vie, elle est où? Selon le Nouveau Testament. La vie est dans son fils. Dans le jardin d'Éden, il y avait là l'arbre de vie. Et l'homme ne s'est pas approché de l'arbre de vie. Il a suivi le séducteur Satan. Alors disons encore ceci, par sa création, Adam a acquis une vie naturelle, c'est-à-dire, comme le dit saint Paul, il est devenu une âme vivante, lisez le chapitre 15 des Corinthiens. Et seule une union avec Dieu lui aurait permis de connaître la vie du Christ, le dernier Adam, qui fut envoyé, lui, comme un esprit vivifiant. Adam a été créé par Dieu et il est devenu une âme vivante. Le Christ, lui, quand il est venu, il était un esprit vivifiant. Alors, d'âme vivante, Adam serait devenu, lui aussi, un esprit vivifiant. Le plan de Dieu n'a donc pas été déterminé par le péché. C'est ce que je voudrais souligner pour vous. Le plan de Dieu n'a pas été déterminé par le péché. Ce plan est né dans le cœur du Père et le péché n'a joué aucun rôle dans son élaboration. Voilà le plan de Dieu. On ignore le péché. C'était ce que Dieu voulait dans son cœur, mais n'imposait pas. Il fallait que l'homme, cette créature libre, choisisse d'entrer dans le plan de Dieu. Ce n'était pas une nécessité qu'il passe par le péché. La pensée de Dieu était qu'Adam et sa famille irait se développant moralement, mentalement et spirituellement. Il devait y avoir progression. Le chemin que Dieu avait envisagé, je le répète, c'était celui de l'arbre de la vie. Adam serait devenu fils, puis héritier, puis roi, et sans passer par la mort, eh bien, il atteignait la gloire. Mais ces trois phases ne peuvent devenir réelles que si les fils apprennent à être conduits par l'Esprit de Dieu. Elle arrive ici au chapitre 8 des Romains, et je vous invite à ouvrir vos Bibles à ce chapitre. pour que vous puissiez bien saisir. Verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'Adam a fait? Est-ce qu'il s'est laissé conduire par l'Esprit de Dieu? Il s'est laissé conduire par qui? Par Satan. Par Satan. Alors, évidemment, il a perdu ce contact avec Dieu. Mais pour que nous devenions fils, pour que nous devenions héritiers et pour que nous puissions régner, il nous faut être conduits par l'Esprit de Dieu. Ainsi, je dis ceci, dès l'éternité, l'appel de Dieu à Adam et à sa postérité fut de parvenir à l'état de fils, qui était le portail qui allait conduire l'homme à la participation, c'est-à-dire à la vie de Dieu et à son dessein, à l'appropriation de tout ce que Dieu désire partager, et finalement à la qualification pour le trône par la discipline. Et maintenant, si vous reprenez le verset 14 de ce chapitre 8 des Romains, l'apôtre nous montre l'homme dans la position qu'il aurait eue s'il avait choisi de vivre pour l'intention de Dieu. Depuis ce verset, vous voyez la position que l'homme aurait eue s'il avait choisi de vivre pour l'intention de Dieu. C'est là le point de départ si on veut réaliser ce que Dieu a voulu. Et c'est à cela que je voudrais vous amener. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors c'est là que ça commence. Mais la plupart des chrétiens et même des évangéliques, ils s'arrêtent là. C'est ça leur salut. Ils sont nés de nouveau. Ce pointillé représente au fond la chute, la séparation, la rupture qu'il y a eu entre l'être. C'était là, au fond, que l'homme avait à choisir. Et c'est là qu'il a manqué. Mais nous passons cela sous silence. Demain, je vous montrerai ce qui s'est passé à la chute. Mais l'homme était la créature de Dieu. Et il devait, dans l'intention de Dieu, devenir son fils. Malheureusement, il s'est éloigné du Seigneur. Mais par la rédemption, dont nous vous parlerons plus spécialement demain, eh bien, nous pouvons devenir des fils. Et quand on est devenu des fils, quand on est maintenant enfant de Dieu, ben, on dit, ben voilà, je suis sauvé. Et c'est ça votre salut? C'est ça que j'appelle le petit salut. Vous êtes sauvé. Puis vous dites aux gens, est-ce que tu es sauvé, toi? Quelle misère! Vous n'avez pas encore compris ça? Mais qui est-ce qui vous a enseigné ça comme ça, d'aller toujours gratter chez les autres pour leur demander si t'es sauvé? Moi, je suis sauvé, non, j'ai une racine. Vous comprenez? Nous sommes agaçants. Puis nous voulons leur parler du Seigneur. C'est le Seigneur qui devrait leur parler, si vous l'avez. Vous allez leur parler du Seigneur. Alors, le Seigneur, il est à côté? Soyez dans le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui parlera. Et on vous demandera la raison de l'espérance qui est en vous. Les gens constateront, vous n'aurez pas besoin de dire que vous êtes sauvés. Ils le verront. Ils verront que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. Et ils vous poseront une question. Et leur cœur s'ouvrira, tandis qu'avec la méthode que vous employez, vous risquez de fermer les cœurs. Et quand on commence à vous regarder, vous les sauvez, les gens du monde se disent, ben misère, si je dois devenir comme elle, c'est ça une sauvée? Si je dois devenir comme elle, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va changer? Si c'est pour devenir comme eux, pas intéressé. Pas du tout intéressé. Vous comprenez? Pas intéressé du tout. Nous nous y prenons mal. On s'arrête là. On est des sauvés. On est des enfants de Dieu. On a l'assurance de notre salut. Mais c'est là que ça commence. C'est une fois qu'on est devenu enfant de Dieu que tout commence. Tandis que pour nous, la conversion, ben, c'est la fin. Vous êtes convertis? Attends. En paix, wagon-lit pour le ciel. Je suis sauvé par grâce. Je me repose sur la taie d'oreiller où il est mis sauvé par grâce. Alors maintenant, mes amis, essayons de comprendre le point de départ. Comment devenons-nous fils? Malgré la chute, parce que c'est ça qui arrive quand même. Nous avons été créés, mais nous, nous faisons maintenant le choix. Le salut nous est offert en Jésus-Christ. Alors, tous ceux qui ont reçu le Christ, ils deviennent enfants de Dieu. Vous avez cela au chapitre 1er, au verset 12 de l'évangile de Jean. Chapitre 1er de Jean, verset 12, on vous l'a déjà cité. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir. On ne naît pas enfant de Dieu. Pas plus qu'Adam a été créé enfant de Dieu. Il était une créature de Dieu. Mais le plan que Dieu voulait pour lui était là, tracé. Pour nous maintenant, nous sommes les enfants d'Adam. Nous ne naissons pas avec la vie de Dieu. Mais nous pouvons la recevoir. Ce n'est pas la religion de nos pères qui nous donne cette vie, c'est l'acceptation du Sauveur. Et que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, que vous soyez orthodoxe, ou fils de parents athées, la vie qui vous permet de devenir enfant de Dieu, vous la recevez du Fils de Dieu. Celui qui reçoit le Fils, pas la vie. La vie est dans son Fils. Nous naissons donc de Dieu, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, dans cette journée, cette fin de journée, du 5 août, est-ce que vous pouvez dire avec l'apôtre Jean, au chapitre 3 de son épître, c'est pas vrai. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Non plus simplement créatures de Dieu, hein, mais enfants de Dieu. Et nous le sommes. Est-ce que vous pouvez dire ça? Nous le sommes. Verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que vous n'êtes jusqu'à présent qu'une créature de Dieu? Ou bien est-ce que vous êtes enfant de Dieu? C'est pas moi qui peux répondre pour vous. Je sais comment je puis dire que je suis devenu enfant de Dieu. Il y a 51 ans là. Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté.
C'est pas fini.
Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes en marche vers d'autres réalisations de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand il sera manifesté, nous serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors maintenant, essayons de voir brièvement comment ces trois phases, celle de fils, celle d'héritier et celle de roi, trouvent leur expression dans l'expérience de chaque fils des entrailles de Dieu. Par ce chemin de la participation, par ce chemin de l'appropriation et de la qualification. Romains 8, je reviens à Romains 8, et nous lisons maintenant au verset 16e. Thème rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous avez ce témoignage du Saint-Esprit dans vos cœurs ce soir? Est-ce que vous pouvez dire, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu? Est-ce que vous avez cette certitude? Il n'est pas question, vous imaginez que vous êtes un enfant de Dieu. Mais si vous avez reçu le Seigneur, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Est-ce que vous l'êtes devenu? Il y a un moment où nous ne l'étions pas, puis un moment où nous le sommes devenus. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Le plan de Dieu se réalise pour nous malgré la chute. En Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et alors, une fois que vous êtes enfants de Dieu, il y a des choses qui nous viennent simplement comme un don de Dieu. Quoi, par exemple? Sa vie, elle nous est donnée, hein? Sa nature, elle nous est donnée. Son esprit nous est donné. Il y a des choses que nous recevons comme un don. Mais il y en a d'autres, telles que le caractère éprouvé de Christ, la mentalité du Christ, sa vision, sa volonté, sa consécration, sont alors le produit de l'éducation, de la discipline, des épreuves, des difficultés, des victoires, et d'une formation spirituelle intense. Depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu devient notre conducteur, notre maître, celui qui va nous éduquer. Parce que nous sommes encore enfants, eh bien, nous sommes d'abord des bébés qui ont besoin de grandir. C'est pourquoi je dis, dès l'instant où vous devenez enfant de Dieu, c'est la vraie vie qui commence. C'est pas le but qui est là. Je suis devenu un enfant de Dieu. C'est pas le but, c'est le commencement. Ici, vous êtes seulement né de nouveau. Et maintenant, vous devez croître vers l'état d'homme fait. Alors, par votre nouvelle naissance, vous êtes donc devenu enfant de Dieu. Et qu'est-ce que nous lisons plus loin ? Étant enfant de Dieu, le témoignage du Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, verset 17. Or, si nous sommes enfants, qu'est-ce qui en découle ? Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Donc le plan de Dieu va se réaliser. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. C'est-à-dire nous héritons tout avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alors notez bien cela. Et j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui doit nous être révélée. Pour nous, l'existence chrétienne commence ici. Or, pour la plupart des gens qui sont maintenant évangélisés, eh bien, elle se finit là. On est des sauvés. Hein? C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. On est sauvés par grâce. Non, vous commencez votre existence spirituelle. Alors ne restez pas des bébés en Christ. Puisque maintenant vous avez la vie, eh bien, laissez cette vie se développer en vous. Certes, vous êtes héritier, mais un bébé, il est héritier, c'est vrai. Mais est-ce qu'on lui donne l'héritage à un bébé ? Vous allez à la banque, vous cherchez tout votre argent. Puis vous dites au bébé, tiens, voilà, ton petit Maurice, c'est pour toi, tout cet argent-là, c'est pour toi. Hein? Qu'est-ce qu'il va en faire? C'est pas possible. Alors, bon, on est héritier, mais le Père est assez sage pour ne pas nous donner ces choses quand nous sommes des bébés. Mais enfin, nous sommes héritiers. Et nous le savons. Alors, en grandissant, on prend de plus en plus connaissance de tout ce que notre Père a. Et comme le père du fils aîné dans la famille de l'enfant prodigue disait à son fils, mais tout ce que j'ai, est-ce que ce n'est pas à toi ? C'est ça ? Mais tout ce que j'ai, tout ce qui m'appartient est à toi. Le fils cadet, lui, il aurait voulu l'héritage plus vite. Mais quand est-ce qu'on a l'héritage ? Quand le père meurt. Alors mentalement, le fils prodigue, il a tué son père. Quand il lui dit, donne-moi la part du bien qui me revient, tu mets trop de temps pour mourir. Donne-moi maintenant ce que j'hériterai un jour. Et le père lui donne son bien et il s'en va. Mais au fils aîné, le père lui dit, tout ce qui est à moi est à toi. Donc, nous sommes héritiers, c'est vrai, et nous devrions prendre conscience de tout ce que nous possédons. Mais pour prendre conscience de tout ce que nous possédons, il faut connaître qui ? Il faut connaître notre père. Il faut s'intéresser aux affaires de notre père. Comme Jésus, qui à l'âge de 12 ans disait déjà, ne faut-il pas que je sois aux affaires de mon Père ? Alors, c'est en grandissant dans la vie spirituelle que réellement nous pouvons de plus en plus nous approprier toutes les bénédictions qui sont les nôtres. Étant devenus enfants de Dieu, nous sommes déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Alors, vous bénéficiez de tous les biens de la maison du Père, alors appropriez-vous ces grâces. Vous n'avez pas d'excuse pour vivre une vie médiocre. Vous avez toute la richesse de Dieu. Vous êtes héritier de Dieu, et puis quoi encore ? Co-héritier du Christ. Donc vous héritez les mêmes biens que le Christ. Alors entrons dans ces choses. Mais il y a beaucoup de choses que le Père ne peut pas partager avec nous tant que nous ne sommes pas mûrs pour les saisir. Mais déjà, je voudrais que nous ayons compris qu'en Jésus, de par Dieu, bien Jésus a été fait pour nous, quoi déjà ? Sagesse, justice, sanctification, rédemption, nous avons déjà ça. Nous avons déjà ça en Jésus. Nous avons la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption. Alors, étant héritier, qu'est-ce qui nous attend ? Quoi, héritier de Christ ? Si toutefois, étant entrés dans le plan de Dieu, si toutefois nous souffrons avec lui. Il n'est pas question de souffrance particulière, de souffrance personnelle, mais des souffrances que nous éprouvons pour le Christ et parce que nous sommes enfants de Dieu. Et je lis encore un verset sur ce thème, le dernier verset, dans 2 Timothée, chapitre 2, il est dit ceci, verset 11, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, lui, fidèle à son dessein. Nous avons été infidèles, mais le Seigneur, lui, est resté fidèle à son dessein, fidèle à son plan, car il ne peut se renier lui-même. Et alors, qu'est-ce qu'il arrive ? Eh bien, vous voyez, une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, on entre dans la discipline de la famille du Père Céleste. Nous devenons enfants de Dieu. Alors, il est dit que, comme les pères terrestres savent discipliner leurs enfants, eh bien, Dieu discipline ses fils. Alors, ce que nous connaissons depuis notre nouvelle naissance, c'est la vie sous la discipline du Seigneur. Et si nos pères terrestres ont pu nous corriger, combien plus nous laisserons-nous corriger par le Père des esprits, qui fait notre éducation, parce que justement, nous allons posséder l'héritage. Et puis, pour que nous ayons la qualification pour régner avec lui sur son trône, eh bien, il est tout à fait normal que nous passions par toutes sortes d'expériences, par toutes sortes d'épreuves, que nous connaissions toutes espèces de difficultés, mais nous ne nous plaignons plus de cela. C'est dans le programme. C'est notre part. Nous sommes héritiers, c'est vrai, de biens spirituels, mais maintenant, puisque nous sommes appelés à régner, quelle doit être notre vie ? Oui, une vie irréprochable, mais c'est-à-dire que nous nous laissons faire par le Seigneur, et c'est lui qui nous qualifie pour ce règne par la souffrance. Voyez-vous, on entre maintenant, une fois qu'on est au Seigneur, on entre à l'école de la souffrance. Et alors on n'est plus scandalisé parce que nous avons des luttes, des combats, des difficultés. Nous savons que nous régnerons avec lui et que nous serons un jour sur son trône. Et je pensais ce soir à ce qu'il est dit au sujet de la Odyssée. On a lu ce verset. Je voudrais que tu fusses au froid, eau bouillante, et parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Mais c'est pas ça qui nous arrivera. Si nous revenons au Seigneur et que nous acceptons l'exhortation, aie donc du zèle et repends-toi. Qu'est-ce qui arrive à celui qui se repent à la Odyssée? Le Seigneur dit au verset 19 du chapitre 3 de l'Apocalypse, « Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repends-toi. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est vivre dans sa présence. Verset 21, « Celui qui vaincra, donc dans la Odyssée, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Voilà le but. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. On a pu être tiède, ça n'empêchera pas, si vous vous êtes jugé de votre tiédeur, de régner avec lui, d'être assis avec lui sur son trône, comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et bien que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Je ne sais pas si vous aurez compris quelque chose de ce que j'ai essayé de vous dire. Je ne sais pas si c'était assez clair. Dieu a créé l'homme, Adam, mais cet homme, créé par Dieu, au sommet de l'échelle de tous les êtres, cet homme n'avait pas la vie de Dieu. Hein. Il avait l'existence d'une créature. Il était une âme vivante. Mais, créé par Dieu, il avait la possibilité de devenir tout ce que Dieu avait prévu pour lui. L'homme ayant fait le mauvais choix, eh bien, a été perdu et forcément, nous tous, descendants de cet homme, qu'est-ce qui nous arrive? Nous n'avons pas la vie de Dieu à notre naissance. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Indépendamment du péché, mes amis, c'est ça que je voudrais vous montrer. Indépendamment du péché, qu'est-ce qu'il vous faut? La vie de Dieu. Il vous faut la nouvelle naissance. Vous pouvez être un homme bien, vous pouvez être très sympathique, vous pouvez avoir fait beaucoup de bonnes œuvres. Vous n'avez pas la vie de Dieu pour autant. Alors, il vous faut la recevoir. C'est simplement que, étant les descendants de cet homme qui s'est privé de la vie de Dieu, ses descendants n'ont pas la vie de Dieu. L'homme n'est pas toujours avec le péché. Simplement, on n'a pas la vie de Dieu. Et que faut-il faire pour avoir la vie de Dieu? Il faut choisir. Nous avons un exemple. Adam, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi de s'en tirer tout seul. Et vous, peut-être, vous choisissez aussi de vous en tirer tout seul. Alors, n'accusez pas Adam, vous faites la même chose que lui. Et c'est pas à cause de la faute d'Adam que vous êtes perdu. C'est à cause de votre faute. C'est votre faute, vous êtes entièrement responsable. C'est ce que nous devons commencer à comprendre. J'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de la vie, parce que je n'ai pas la vie éternelle. Je n'ai aucune étincelle de vie éternelle en moi. J'ai la vie physique que Dieu m'a donnée, c'est vrai, mais il me faut sa vie, et je l'ai dans le Fils. La vie est dans son Fils. Et quand j'accepte le Fils, je deviens moi-même le Fils. Je deviens l'enfant de Dieu. Et l'existence chrétienne commence. Parce que pour beaucoup de gens, eh bien, on s'arrête à la rédemption. On s'arrête à la croix. Hein? C'est pas ça. La vie commence après la croix. Alors, maintenant nous sommes ici. Êtes-vous ici? Êtes-vous encore là? Créature simplement de Dieu, ne connaissant pas la tendresse du Père? Ou bien êtes-vous devenu en Jésus-Christ les enfants de Dieu? Si vous êtes enfants de Dieu, alors vous avez une espérance, vous savez ce que vous espérez. Mais maintenant, vous ne vivez que pour le Père. Le Fils unique a vécu pour le Père, et nous, étant maintenant ses fils, par adoption, nous vivons pour le Père. Et puis, sachant que nous sommes appelés à régner avec lui sur son trône, eh bien, nous désirons être qualifiés pour le trône, et on n'est pas n'importe qui sur le trône. Celui qui est appelé à devenir roi, il est formé. De sorte que j'accepte maintenant la formation à l'école de mon Père Céleste. Et je suis déjà réconcilié avec tout ce qui peut m'arriver. Il n'y a plus de problème dans ce domaine-là. On a d'autres problèmes, d'autres questions, mais la question de la justice de Dieu, de ce qui peut nous arriver, c'est réglé définitivement. On ne perd plus son temps avec ces choses-là. Nous l'avons prié. Ô Dieu, nous voudrions te demander que ce soir, tu nous donnes la vision de ce si grand salut. Et que tu nous fasses comprendre que nous sommes, depuis le jour où nous nous tournons vers toi, nous sommes qu'au commencement de la vraie vie. Nous te supplions de nous donner de saisir que si nous sommes fils, nous avons maintenant à manifester la nature de notre Père des cieux. Et que connaissant son amour, que nous puissions témoigner de cet amour. Que le monde voit que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et que nous puissions nous réjouir en pensant qu'un jour, après avoir souffert, nous régnerons